Fréquence protestante, La valeur de l'homme, Emmanuel Taïeb.
Clint Eastwood, une ambiguïté héroïque. Bonjour à toutes et tous, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui en direct et en duplex un grand monsieur de la sociologie française, Jean-Louis Fabiani. Avec lui, nous allons évoquer la figure inclassable de Clint Eastwood, dont l'œuvre a longtemps échappé aux assignations esthétiques et politiques qu'on plaquait sur lui. Jugé réalisateur et acteur mineur à ses débuts, ou défenseur du fascisme dans la série des Dirty Harry, il va, au fil de sa longévité exceptionnelle, être consacré comme auteur par la critique et incarner l'Amérique post-raciale et la déconstruction du masculinisme traditionnel d'Hollywood. Tout cela sans que l'homme, Clint Eastwood, ne semble changer d'un iota, toujours libertarien et supporter du parti républicain. Par quel tour de force le cinéma de Clint Eastwood peut-il provoquer tant de lectures contraires? La réponse tient dans l'analyse sociologique de ses ambiguïtés. Il faut ainsi rappeler sa volonté farouche d'indépendance qui l'a conduit à faire le pari d'aller tourner en Italie des westerns spaghetti parce que sa carrière d'acteur ne décollait pas aux États-Unis, à monter ensuite sa propre société de production qui lui assure un contrôle quasi total de ses films et bien sûr à se lancer tardivement dans la réalisation. Cinéaste du récit, qui n'entend pas révolutionner les formes de la mise en scène, Clint Eastwood propose à l'Amérique un miroir étonnant où les questions du genre et de la race sont en même temps convoquées et congédiées. Le monde social de ces films est bien celui d'aujourd'hui, mais les personnages incarnés par Eastwood le regardent avec une ironie critique et dans le refus de toute idéologie. Le propos d'Eastwood n'est ni masculiniste, ni féministe, ni racialiste, ni post-racial. Tout se joue ailleurs, dans le triomphe de la morale, de l'amitié, de la transmission, souvent dans la dénonciation de la violence, laissant ouvertes toutes les interprétations sur son cinéma. Bonjour Jean-Louis Fabiani.
Bonjour.
Jean-Louis Fabiani, vous êtes sociologue, vous avez travaillé à la Central European University de Vienne et avant cela, vous aviez été directeur d'études à l'EHESS. Vous avez récemment publié Bourdieu, un structuralisme héroïque qui a été abondamment discuté dans le milieu académique et plus récemment une sociologie de la Corse. Je vous reçois aujourd'hui pour votre dernier ouvrage, Clint Eastwood, qui est publié aux éditions La Découverte. Jean-Louis Fabiani, d'où vous est venu cet intérêt qu'on ne vous connaissait pas nécessairement pour Clint Eastwood ?
Oui, c'est la première fois que j'écris sur le cinéma. C'est un intérêt très ancien qui est venu d'une question sociologique plutôt classique. Pourquoi, au fond, Clint Eastwood, qui est un cinéaste populaire au plus loin de la légitimité artistique, était-il encensé par les rédacteurs des cahiers du cinéma ? Et ce paradoxe, j'ai essayé de le traiter en sociologue. Et puis, au fil du temps, mon questionnement a évolué. Il a évolué à la lecture de textes concernant Clint Eastwood, qui demeurait, malgré sa reconnaissance européenne comme un vrai cinéaste, quelqu'un de très honni par la critique de gauche états-unienne, je me suis aperçu que des féministes avaient un jugement très positif sur son cinéma. Et cette énigme m'a conduit, au fond, à recentrer mon analyse autour, justement, de cette question que j'appelle de l'ambivalence. Les sociologues ont beaucoup de mal à penser l'ambivalence parce que, disons, elle fait sortir les individus ou les objets des cases dans lesquelles on les met. Et donc, cette impossibilité d'assigner Clint Eastwood à une signification unique m'a intrigué et je me suis mis à lire des féministes, à lire tout ce qui s'était produit sur Eastwood depuis une trentaine d'années. Et c'est à partir de là que j'ai écrit ce petit ouvrage.
Il sort des cases, il sort des déterminismes. Est-ce qu'il y avait aussi, Jean-Louis Fabiani, une volonté de marcher sur les traces de Norbert Elias, notamment un livre pas très connu mais très important qui s'appelle Mozart, sociologie d'un génie, c'est-à-dire travailler, faire la sociologie d'une œuvre, faire la sociologie d'un auteur qui a une œuvre considérable et y entrer comme sociologue?
Bien entendu. Alors, le travail d'Elias que vous rappelez, je n'y avais pas pensé, mais que vous rappelez opportunément, c'est de montrer au fond comment on peut approcher sociologiquement quelque chose qui résiste au plus haut degré à la sociologie qui s'occupe des séries, des régularités, etc., c'est-à-dire l'exception. Et donc, le petit Mozart d'Elias a été certainement un moment très important dans l'approche sociologique, disons, de l'individualité, d'une œuvre tout à fait singulière et qui, en même temps, ne peut être comprise que dans le jeu des interactions historique. Et cette comparaison à laquelle je n'avais pas pensé me semble tout à fait pertinente parce que Clint Eastwood, justement, c'est plus compliqué. Enfin, le génie de Mozart a été reconnu de manière diverse et après coup, pour une part. Mais pour Clint Eastwood, la question reste ouverte. Génie ou tâcheron, les choses ne sont pas encore tranchées. L'histoire tranchera sans doute. Je n'ai pas de pronostic à cet égard, mais là on est dans une œuvre dont, disons, la reconnaissance multiple crée un problème sociologique d'ordre nouveau.
Il y a effectivement un problème immédiat de réception de l'œuvre ou de l'activité de Clint Eastwood comme acteur et comme réalisateur. Il a mauvaise réputation, dites-vous, Jean-Louis Fabiani. Est-ce que ça vient, alors peut-être pas de Rawhide, qui était la série où il avait un deuxième rôle, mais du personnage de Dirty Harry, dont je parlais en début d'émission, qui va être unanimement, ou en tout cas qui va être reçu par la critique new-yorkaise comme un policier fasciste. Et cette espèce d'étiquette-là, de violence, de complaisance dans la violence va coller et continue de coller à Clint Eastwood alors qu'il en est très très loin. Donc il y a un problème de réception d'emblée.
Oui, tout à fait. C'est le divorce entre Clint Eastwood qui s'entoure de réalisateurs de série B avant de passer lui-même à la réalisation, des vieux routiers, disons, de ce type de production. Et qui, du coup, échappe au gris de légitimité des critiques du New Yorker ou du New York Times, qui, aujourd'hui, le New York Times le loue, et c'est tout à fait différent. Mais il apparaît comme quelqu'un qui se réduit à son magnum, à son revolver, et qui est évidemment assimilé par Pauline Kael, qui est sa grande ennemie historique, à un phallus géant, et on conteste ses capacités de jouer la comédie. Il dit c'est le Magnum 47 qui joue, et ce n'est pas Clint Eastwood. Clint Eastwood, il porte le calibre, si vous voulez. Et donc là, il y a un malentendu terrible, parce que Clint Eastwood arrive à un moment, effectivement, où la violence policière est contestée dans de nombreuses villes américaines, où cette question est vraiment centrale, et où son premier film, Dirty Harry, apparaît comme une sorte d'apologie de la violence policière, du refus des règles, de l'affranchissement à l'égard de toute possibilité, disons, d'une police juste. Et là, évidemment, il est assimilé. D'ailleurs, lui-même va se présenter à des assemblées de policiers, à des congrès de policiers. Enfin, il ne dément pas, disons, l'image de droite qui est la sienne. Mais ce qu'on ne voit pas, évidemment, c'est que la fin de Dirty Harry, par exemple, est très symbolique. Il jette sa plaque de policier dans la rivière. Il abandonne son statut de policier. Et donc, effectivement, le message qui apparaît dans un filmage tout à fait traditionnel est beaucoup plus complexe que celui que retiennent les gens de New York, en gros. Et du coup, Clint se complaît dans cette image du cinéaste anti-intellectuel. Et là, je montre dans mon livre que c'est un jeu, parce que très tôt, quand il était complètement inconnu, Clint Eastwood a cherché la reconnaissance de ses pairs, mais aussi de la critique. Et donc, son habileté et sa chance, c'est un mélange des deux, a été de s'appuyer sur la critique européenne et particulièrement la critique française. Mais il a eu aussi des rétrospectives assez tôt au NFT de Londres. Donc, C'est un mouvement européen qui consiste à réévaluer une œuvre qui est considérée comme fasciste. Hein, j'ai un chapitre qui est « Fascist Klimt » avec un point d'interrogation, parce que c'est bien ça que lui adresse la critique new-yorkaise.
Et en fait, vous l'avez évoqué, la critique européenne, on va dire à partir des années 80, parce que les cahiers du cinéma ont un peu, enfin, désertent un peu le cinéma américain pendant les années 70, et puis je crois que ça revient avec Apocalypse Now, mais disons à partir des années 80, les cahiers le reçoivent, en tout cas accueillent avec bienveillance sa filmographie, dans la lignée, au fond, d'un cinéaste qui arrive à mélanger ou à conjuguer un cinéma populaire et en même temps un statut d'auteur comme pouvait l'être Hitchcock, que les cahiers avaient encensé. Donc Jean-Louis Fabiani, il y a une réception européenne qui fait de Clint Eastwood un héritier du savoir-faire hollywoodien classique ?
Absolument. Ce que vous venez de décrire, c'est une espèce de schéma qui est très, très ancien, qui fait que, ben, si vous regardez John Ford, ou évidemment vous avez cité Hitchcock, qui est un pur produit de François Truffaut, dans son, comme grand cinéaste. Et donc cette grille de lecture, ici française, du cinéma commercial américain, pour le nommer tel qu'il est, n'est pas une nouvelle chose. Et c'est effectivement cette seconde lecture, ou cette lecture qui voit à la fois une technique éprouvée dans ces films, mais en même temps une signification qui dépasse, disons, l'industrie cinématographique. Et c'est anecdotique, mais Jean-Luc Godard dédicace son film Détective à Clint Eastwood. Mm-hmm. Hein, c'est ce que vous voyez à l'écran au départ, c'est à Clint Eastwood. Et là, on voit, c'est une vieille tendance de la cinéphilie française, mais aussi de la nouvelle vague, de payer ses respects au cinéma classique hollywoodien, dont la Volontinda, hein, le Kunstvollen, n'est pas la première des choses. On se souvient que jusqu'au milieu des années 30, les cinéastes américains préféraient qu'on détruise leurs films pour ne pas gêner la carrière de ceux qui arrivaient après, des films qu'ils avaient faits après. Et donc la patrimonialisation du cinéma états-unien est, bien entendu, pour une bonne part, une affaire française.
Je voudrais qu'on en vienne aux particularités de la trajectoire biographique, comme on dit en sociologie, de Clint Eastwood. Vous insistez, Jean-Louis Fabiani, à plusieurs reprises sur le fait que c'est un bel homme quand il est jeune, mais d'une beauté assez fade. Et au fond, il ressemble à beaucoup de jeunes gens de son époque. Il va quand même avoir un certain nombre de ruptures biographiques ou faire un certain nombre de choix. Et notamment, vous insistez sur cette rupture assez étonnante qui est l'opportunité d'aller tourner à Rome ce qu'on appelle donc des western spaghetti avec un grand monsieur aujourd'hui, mais qui n'était pas nécessairement aussi connu à l'époque, qui est Sergio Leone. Là, il y a vraiment une espèce de pari incroyable de Clint Eastwood.
Oui, alors comme dans toute l'histoire, disons, des rencontres, pas seulement dans le domaine de la culture, il y a une part de volonté, je crois qu'elle est très forte chez Eastwood quand on lit les entretiens qu'il a fait avec des critiques ici et là. Très tôt, il a de grandes ambitions, mais ces ambitions ne sont pas satisfaites. Alors, c'est une idée qui m'est venue, au fil du temps, mais je me suis dit au fond qui sont ces contemporains, les contemporains acteurs qui explosent à l'écran. Ben, c'est Marlon Brando dans les années 50 et James Dean. Et lui, c'est le beau gars, c'est le Beach Boy, si vous voulez, californien. Il est du nord de la Californie, mais bon, il a à 10 ans, il a vécu à Los Angeles, c'est un enfant de Los Angeles d'un certain côté, et il est beau gosse, il mesure 6 pieds, 4 pouces, mais il y a plein de gens comme lui qui attendent un rôle à Universal ou qui font la queue. En plus, lui, il a une dentition défectueuse apparemment, et une pomme d'Adam saillante. Et il y a cette célèbre anecdote où Burt Reynolds et Eastwood sont virés de leur contrat à $85 la semaine par Universal. Reynolds parce qu'il ne sait pas du tout jouer la comédie, et Eastwood parce qu'il a une pomme d'Adam qui ressort. Et au parking, Reynolds lui dit « Ben, moi, j'arriverai peut-être un jour à jouer à la comédie, mais toi, tu ne pourras pas changer ta pomme d'Adam. » Voilà. Et donc, il fait des débuts très, très médiocres. Il les raconte, d'ailleurs. Il raconte l'humiliation des castings, etc. Et il arrive, évidemment, à la télévision. Il joue ce rôle second, hein, par rapport à la vedette dans Rawhide. Et puis, Rawhide commence à décliner. C'est une série qui a eu un peu de succès au début, mais où il n'arrive pas à se détacher. Et on lui propose un contrat à $15,000, plus l'aller-retour en classe économique Los Angeles-Rome, pour tourner quelque chose qui est un western spaghetti. Alors, que Sergio Leone n'a pas inventé, il s'en tournait 25 par an, mais que Sergio Leone a transfiguré. Et on voit ici la proximité entre les deux hommes. Sergio Leone a fait d'une forme, de la forme la plus basse du cinéma italien, puisque c'était une sorte de pastiche plus ou moins volontaire du western. Il l'a transformé en une forme de d'art qui est aujourd'hui enseignée dans les écoles de cinéma. Donc, il y a une sorte d'homologie entre les deux qui est très intéressante, et Eastwood, naturellement, va profiter de ce que j'appelle une transfiguration, puisque au fond, tout ce qu'il savait faire, c'est-à-dire jouer le cowboy, le vacher, va être complètement recomposé dans une relation avec Léon qui est très compliquée, parce que Léon ne parle pas anglais, le casting est absolument très divers, il y a quatre langues, hein. Il tourne en Espagne, donc Léon est italien, il y a des gens qui parlent allemand et anglais. Et donc Eastwood, qui a beaucoup de mal à tenir de longs dialogues, Sergio Leone était un intello, hein, et donc il avait au départ le scénario
pour une poignée de dollars.
Voilà, était plein de longs dialogues, et c'était impossible en tournant en plusieurs langues d'ailleurs. Et donc Eastwood convainc Leone, c'est au moins ce qu'il dit, de couper dans les dialogues, et donc le cowboy mutique, l'homme sans nom, etc., que va être Eastwood, apparaît ici comme une innovation esthétique de grande ampleur. En fait, en plus, je décris dans le livre le passage, disons, d'une configuration du western qui est protestante à quelque chose de catholique, la latinisation du western, etc., bon, qui font qu'on va être devant un objet tout à fait singulier, sur lesquels les producteurs n'ont pas du tout misé, puisque le film n'a jamais a failli ne jamais sortir, et il va sortir à Florence en été, un peu par hasard, dans une salle, et là le public va adhérer complètement, et donc ça va finir par le succès international que l'on sait, qui va transformer ce western spaghetti, qui était au plus bas de la hiérarchie des arts, mais qui n'était pas une invention de Leone, il faut le rappeler, en forme d'art extrêmement sophistiquée, qui va rencontrer son époque, bien sûr, cette époque, du capitalisme hédoniste, de la dérision, etc., dont le cinéma de Leone est une des premières manifestations, avant bien d'autres. Et donc, ce qui est ironique, c'est que le film paraît mauvais à Eastwood, et il est bien content qu'il ne sorte jamais aux États-Unis. Puis il avait un autre titre, hein. Et donc, quand le film sort en Italie, Eastwood ne le reconnaît pas. Notamment parce que Léon se fait appeler Bob Robertson, ça passe pour un film américain, John Maria Volonté se fait appeler John Wells, donc bon, le film est méconnaissable et il ne le reconnaît pas. Voilà, et donc là, il y a une forme de, j'ai appelé le chapitre Miracle à Rome, parce qu'il y a une forme de magie sociale, où là, il y a une part de contingence, hein, et évidemment, les deux autres films dans lesquels Eastwood tourne avec Léon, il voyage en première classe, il a en prime une Ferrari, etc. Bon, les conditions de travail changent. Et le statut de Eastwood change avec.
Lui-même, Jean-Louis Fabiani, arrive à influer sur ce statut-là en faisant quelque chose qui n'est pas nécessairement très fréquent dans le monde des acteurs ou des apprentis réalisateurs à Hollywood, c'est qu'il va fonder sa propre société de production, une assez petite structure mais qui continue jusqu'à nos jours, qui s'appelle la Malpasso Company. Est-ce qu'on peut dire que là, il fait le choix d'une autonomie artistique qui, en quelque sorte, le met à l'abri de beaucoup, beaucoup d'aléas ?
Absolument. Absolument. Et là, on voit qu'il est tout à fait, il n'est pas la brute que décrivent les critiques new-yorkais. C'est un homme qui s'est aperçu, qui regarde le cinéma européen, notamment celui de la Nouvelle Vague, et qui s'aperçoit qu'on peut faire des films avec un tout petit budget et en ne dépendant pas des grosses machines productives hollywoodiennes dont il a connu tous les aléas au cours de sa jeunesse. C'est une fleur tardive, Eastwood. Mm. Et donc, il est très avisé de créer Malpasso qui permet de réaliser des films à des coûts qui sont extrêmement inférieurs à ceux d'une production moyenne de Hollywood et surtout qui sont basés sur un principe d'économie qu'il a tiré, de la Nouvelle Vague. Une prise, mais pas 17. La simplicité de tout ce qui concerne la nourriture des équipes, des acteurs. Ces tournages se terminent toujours avant la date prévue. Sans exception, c'est tout à fait extraordinaire ce principe d'économie dans un monde qui est le monde lavish, le monde au contraire de la dépense pure ou de la consommation effrénée, les retards de production, les caprices des divas, vous voyez, toute la légende de Hollywood, mais qui est aussi une réalité. Lui, il tourne en décor naturel. Il a des toutes petites équipes qui lui sont très fidèles. C'est vraiment une petite famille. Alors, c'est un patron de choc. Hein. C'est pas du tout un philanthrope. Mais les techniciens lui sont très attachés. Et puis, bien entendu, les grosses machines de Hollywood qui ont coûté des millions et des millions de dollars, ben des centaines quelquefois maintenant, pour qu'elles atteignent le point mort, il faut vraiment qu'elles fassent des succès mondiaux. Tandis que une production de Eastwood, ben, si elle rate, ce qui lui arrive souvent, parce que tous les films de Eastwood ne sont pas bons et tous n'ont pas de succès, la mise de départ étant faible, les pertes sont nécessairement limitées. En revanche, quand il a énormément de succès, ce qui a été régulièrement le cas dans la deuxième partie de sa carrière, avec Million Dollar Baby, Mystic River et tous ces très grands films, eh bien là, le profit est beaucoup plus élevé que pour une grosse machine de Hollywood, autant de succès qu'elle est par ailleurs.
On va écouter un dialogue tiré du film Impitoyable qui date de 1992 entre le héros William Money qui est joué par Eastwood et le shérif qui est joué par Gene Hackman.
Vous êtes le plus lâche de tous les salopards. Vous tirez sur un homme désarmé.
Ben, il aurait mieux fait d'être armé s'il voulait décorer son saloon avec mon ami.
Tu dois être William Money du Missouri. Tueur de femmes et d'enfants.
Exact. J'ai tué des femmes et des enfants. J'ai tué à peu près tout ce qui marche ou rampe, un moment ou un autre. Et je suis là pour te tuer, Little Bill. Pour ce que tu as fait à Ned. Vaut mieux foutre le camp, les autres.
Maintenant, messieurs, il ne lui reste qu'une seule balle. Dès qu'il fera feu, vous sortez vos pistolets et vous la battez comme le chien galeux qu'il est. Coup foireux ! Descendez ce fils de pute !
Fréquence protestante, Clint Eastwood, une ambiguïté héroïque. Nous sommes en direct et en duplex avec Jean-Louis Fabiani. Jean-Louis Fabiani, vous écrivez dans votre ouvrage, l'œuvre d'Eastwood laisse en suspens la production d'un message idéologique unifié. Donc on est en présence d'une œuvre au fond qui va jouer de ces contradictions, de ces ambivalences, avez-vous dit en début d'émission, et qui ne se laisse pas du tout enfermer, et y compris d'ailleurs qui ne se laisse pas du tout enfermer politiquement.
Oui, alors l'extrait que vous venez de passer est assez illustratif de cette complexité, de cette ambivalence, puisque effectivement, le dit Manu est un homme qui reprend du service dans la délinquance au grand désespoir de sa femme. Et donc, on est là dans, un enchevêtrement entre une thématique de la rédemption. Une thématique de la soumission à une sorte de destin meurtrier qui a, il faut le rappeler aussi, pour Unforgiven, pour Impitoyable, qui est fondée sur l'amitié, qui est aussi une amitié personnelle entre Morgan Freeman, qui joue Logan, et Clint Eastwood. Et donc là aussi, la question de la couleur apparaît. Et je pense qu'effectivement, Clint Eastwood a pris soin. Alors, il joue la carte de la défausse en disant « Mais moi, je suis un type, a guy who makes movies. Je suis un artisan du cinéma. »
Oui, ce que disait John Ford déjà, d'ailleurs.
Voilà, je n'ai pas de message politique à faire passer. Alors, l'homme Eastwood, parce que dans mon livre, j'analyse un problème classique au cinéma que les anglophones appellent la question de la persona. Qu'est-ce que c'est que le personnage d'Eastwood ? C'est effectivement une série de personnages qui ont des caractéristiques récurrentes. Des hommes, souvent machos, qui ont eu un rapport très étroit à la violence, mais dont l'itinéraire fait que ce rapport se modifie. Et puis, il y a l'homme réel Eastwood, le maire de Carmel, le libertarien, hein, parce que c'est ça aussi qui est, s'il y avait un message politique, ce serait plutôt un message libertarien. Et évidemment, une affirmation de sa fidélité à la droite qui vient de se fissurer, puisque, comme vous le savez, il n'a pas soutenu pour la première fois depuis, je pense, depuis qu'il vote, il n'a pas soutenu Donald Trump, il n'a pas soutenu le candidat républicain, sans pour autant soutenir un autre candidat. Donc, il y a cette constance. Mais en même temps, avec le saut libertarien qui est se défier en permanence de l'État, de la puissance publique au nom de la liberté de l'individu. Je crois que ça, c'est. Mais ça se présente pas comme un message puisque Eastwood a traversé. Hein, et c'est la question de la longévité dans l'art qui est posée ici, alors évidemment qui ne serait pas permise, il faut le dire, à une femme. Vous voyez, une femme de 90 ans, alors il y en a eu quelques-unes, mais elles ont des rôles vraiment très spécifiques et certainement pas des premiers rôles. Eastwood continue, The Mule est le dernier excellent exemple, je crois, où il joue de son âge, de son vieillissement. Je crois que l'habileté d'Eastwood est de refuser tout message politique, tout film à thèse. En revanche, il a une sorte de savoir intuitif, hein, vous voyez, de capacité de capter l'air du temps et les transformations de la société américaine. C'est tout à fait frappant, tout en gardant, et de Mule, je le citais, tout en gardant cette totale indépendance vis-à-vis du politiquement correct. Mais sa légitimité est telle aujourd'hui que ses remarques ou l'utilisation du terme « negro » dans The Mule, quand il dépanne une famille afro-américaine, sont passées comme une lettre à la poste. Et c'est quelque chose d'assez étonnant qu'il veuille, au fond, ne pas obéir à ce qui est aujourd'hui la correction politique minimale aux États-Unis. C'est une preuve de son libertarisme, c'est une preuve de son refus d'allégeance à quoi que ce soit.
Vous expliquez dans votre ouvrage qu'au fond, il va en quelque sorte prendre en compte, sinon acter, les mutations de l'Amérique contemporaine, par exemple sur la question de la race, entre guillemets, mais qu'en même temps, il va s'en défier, il va les mettre un peu à distance ou il va s'en moquer. Dans The Mule que vous citez, où effectivement il a des comportements ou un vocabulaire raciste, à la fin du film, il se régale en plaidant coupable de tout ce qui lui est reproché. Donc il accueille ça, mais il l'accueille avec une ironie ou une distance critique sans aller trop loin, Jean-Louis Fabiani.
Oui, alors The Mule est un film très complexe, à mon sens un des plus réussis de Eastwood, parce que justement il aborde ses problèmes d'une façon très décalée et c'est un pied de nez, puisque sa famille est effondrée quand il plaide coupable, comme son conseil légal. C'est un pied de nez. Il dit, voilà, vous ne mourrez pas. Et en même temps, bien entendu, c'est un film sur, je ne dirais pas les dérives, mais au fond, les aspects un petit peu ridicules de l'attention à la couleur, comme ce malheureux qui est effaré, qui a l'air d'un hispanique et qui ne parle même pas espagnol d'ailleurs, mais qui est terrorisé par Clint Eastwood. Donc il y a tout ce jeu en disant je vous ai bien eu, je ne suis pas dupe de vos assignations et je peux continuer à jouer librement. En même temps, bien entendu, il a tourné Gran Torino, il a fait un certain nombre de films dans lesquels la question des minorités est abordée de front. Alors, évidemment, avec cette ambiguïté pour Gran Torino, qu'il aurait pu parler des Noirs de Detroit et qu'il se réfère aux Hmong, donc à des Vietnamiens, donc un groupe extrêmement minoritaire. Donc là, il y a un petit jeu. Mais en tout cas, il aborde les problèmes d'une manière qui lui est reprochée par un certain nombre de cinéastes noirs, comme Spike Lee, qui le considère comme un cinéaste raciste. Et puis il y a ce film très étrange qui est Bird, qui est un hommage à Charlie Parker, parce que Eastwood est un grand fan du jazz afro-américain, le jazz joue une grande importance dans son film, la musique country aussi. Bird a été l'objet d'une polémique très violente, notamment avec Spike Lee. On lui a reproché, on a dit un blanc ne peut pas tourner la vie d'un noir. Et d'ailleurs, Eastwood a exagéré la dimension toxicomane de Parker, etc. Il y a eu un énorme débat, mais dont Clint Eastwood s'est plutôt bien sorti. Tout en gardant, disons, son autonomie et en refusant la compromission ou disons, la reconnaissance d'une culpabilité. C'est très étonnant. On pourrait en dire la même chose de son rapport aux femmes.
On va rester sur la question des femmes. On va écouter le début du monologue de Laura Linney dans Mystic River, qui date de 2003, qui chuchote à son mari qu'il n'a rien fait de mal en recourant à la violence.
I want to feel your heart. Last night, when I put the girls to bed, I told them how big your heart was. I told them how much you loved Katie. Because you created her. And sometimes, your love for her was so big, it felt like your heart was going to explode for loving her. I told them their daddy loved them that much too. And he had four hearts. And they were all filled up and aching with a love that meant that we would never have to worry. And that their daddy would do whatever he had to for those he loved. And that is never wrong. That can never be wrong, no matter what their daddy had to do. And those girls fell asleep at peace.
La valeur de l'homme, fréquence protestante, Clint Eastwood, une ambiguïté héroïque. Nous sommes en direct en duplex avec Jean-Louis Fabiani. Elle s'adresse à son mari qui est joué par Sean Penn. Alors, dans votre ouvrage, Jean-Louis Fabiani, on va rester sur ces mutations de l'Amérique contemporaine. Sur la question du virilisme ou disons de la place de l'homme, vous insistez dans votre ouvrage pour dire qu'un film comme Mystic River, justement, va montrer des hommes qui doutent et des hommes extrêmement vulnérables. Ici, c'est une scène qui relève un peu du Lady Macbeth, hein, où c'est Laura Linney qui va souffler des choses à son mari, mais c'est vraiment un film qui vient acter une forme de dépossession de la puissance masculine.
Tout à fait, comme d'autres d'ailleurs, mais Mystic River est le plus, probablement un des meilleurs films d'Eastwood, et c'est une réflexion très profonde sur la question des effets de la masculinité, et c'est un film de facture classique, comme tous les films d'Eastwood. Eastwood ne joue pas dans ce film, d'ailleurs, c'est intéressant. Bon, il a une distribution qui est très, très prestigieuse. C'est un film de vengeance, hein. C'est œil pour œil, dent pour dent. L'atteinte à la virilité du héros exige une punition qui va restaurer sa virilité. Ça, c'est quelque chose de classique à Hollywood. Mais Mystic River va démultiplier la personne du mal en trois personnages qui réagissent différemment à un trauma initial. Et là, on va voir au fond les fractures et les failles qui, concernent ces hommes à un moment où la réponse virile n'est jamais la bonne, au fond, puisque un des trois copains va tuer, Jimmy va tuer Dave, innocent, etc., au nom d'un engrenage dans lequel, qui est à la fois d'honneur et de virilité, dans lequel les personnages se trouvent pris. Et dans un Boston qui est éclairé de manière très noire, alors oui, il y a du Macbeth dans tout ça. Dans les films d'Eastwood, il y a plusieurs type de représentation de la femme. Il y a la femme castratrice, ce thème, alors là, c'est vraiment tout à fait... Il ne faut pas chercher des choses latentes. L'idée que les femmes puissent être très violentes à l'égard des maris, le fait qu'elles puissent aussi les guider.
Oui, les pousser. Dans Impitoyable, tout part du point de départ qui est une atteinte à des corps de prostituées qui vont payer des tueurs à gages. Donc il y a un engrenage de la violence.
Voilà, le thème de la prostitution est très important. Et puis, au fil du temps, de nouveaux types de femmes apparaissent. Alors, c'est la jeune boxeuse de Million Dollar Baby, mais surtout le grand tournant, puisque en gros Clint Eastwood avait aux États-Unis, parce que ailleurs il n'y a pas d'enquête, mais aux États-Unis une audience plutôt masculine, plutôt classe ouvrière, avec une forte importante Clint Eastwood et l'acteur blanc que les Afro-Américains hommes préfèrent. Hein. Mmh. Bon, mais c'est sur la route de Madison, le différent, donc j'oubliais, sur la route de Madison qui
oui,
va
Meryl Streep.
Complètement, voilà, Meryl Streep, cette femme qui elle aussi renonce. Elle renonce à son amour pour Eastwood, pour cet homme, de ce photographe de National Geographic. Et donc, c'est à la fois une merveilleuse histoire d'amour et le renoncement à cet amour au nom de la famille. Alors, on a pu y voir une sorte d'hymne au conservatisme, au fond. Bon, c'est une brève rencontre n'a pas d'avenir, mais qui est très intense. Et puis, de l'autre contraire, le fait que le désir de la femme devient le moteur de l'intrigue, à la différence des classiques de Hollywood. Et là, on voit bien cette ambivalence. Hein. C'est le sociologue Robert Merton qui a écrit un article célèbre sur l'ambivalence. Et je trouve, moi, que les sociologues n'ont pas suffisamment creusé cette question de l'ambivalence. Alors, évidemment, les critiques littéraires, etc., savent depuis au moins Umberto Eco ce que c'est que l'œuvre ouverte. Mais nous, les sociologues, nous avons du mal, je pense, à penser l'ambivalence. Nous croyons, disons, à l'habitus, à la force de la socialisation, et Clint Eastwood joue, vous voyez, c'est un grand joueur, un parieur, et il parie, il surfe en quelque sorte sur les transformation de la société américaine, et tout en restant lui-même, il intègre évidemment ces transformations et notamment les rapports entre les gens.
Eastwood permet, ce sera une dernière question, Jean-Louis Fabiani, de sortir d'une sociologie platement déterministe quand on travaille sur une œuvre pareille.
Oui, absolument. J'ai voulu montrer d'abord qu'il y avait une part contingente dans l'histoire de Clint Eastwood, qu'on ne pouvait pas la réduire, disons, à des déterminations sociales. La rencontre avec Léon est, pour une part, une rencontre hasardeuse, et elle produit des effets qui sont bien au-delà des ambitions de l'un et de l'autre. C'est ça qui est fantastique. Il y a deux ambitions qui se rencontrent et elles potentialisent leurs effets et elles les démultiplient. Alors ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était évidemment qu'une œuvre est toujours susceptible d'appropriations multiples et que donc on ne peut pas la réduire, disons, à un message idéologique. Et que, tout en gardant des formes narratives qui sont extrêmement éprouvées, Clint Eastwood s'élève, disons, on le reconnaît aujourd'hui, s'élève au grand art. Et ça, c'est un paradoxe. Au fond, j'avais envie à la fois de suivre Bourdieu dans sa sociologie du goût et en même temps de montrer les limites d'une application simpliste. Puisqu'au fond, Clint résiste. Il résiste à la sociologie, et je dirais qu'un mot, il y a un film, je l'ai enlevé dans le livre parce que c'était trop gros, mais il y a un film où, j'oublie son titre d'ailleurs, mais c'est une sociologue qui est à un bar où on joue du country, et Clint Eastwood lui demande ce qu'elle fait, elle dit « je fais une sociologie de la country music, mais moi j'ai horreur de ça, c'est des ploucs qui aiment ça ». Et à ce moment-là, Clint lui met un grand coup, alors, ce qui est très machiste, et elle est ridicule parce qu'elle perd ses fausses dents. Et c'est la seule fois où un sociologue apparaît dans l'œuvre de Clint Eastwood, donc j'y vois un clin d'œil, une résistance à la sociologie.
J'entends, et dans la corde raide, il tue, le criminel tue une critique, donc ça doit être aussi une critique ciné, donc c'est une référence à Pauline Kael. Merci beaucoup Jean-Louis Fabiani pour votre présence avec nous aujourd'hui. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Clint Eastwood, publié aux éditions La Découverte dans la collection Repère. C'est sorti là en octobre 2020. Merci à Emmanuel Demisco à la réalisation. Ce podcast, j'allais dire non, ce programme sera très vite en podcast sur le site de Fréquence Protestante. À bientôt.